Vendredi 21 août. Erin. Le cottage à côté de la rivière, celui à côté duquel je me suis arrêtée en faisant mon jogging, va devenir mon nouveau chez-moi. Pendant un temps au moins. Jusqu'à ce qu'on règle cette histoire avec Anderson. C'est Sean qui me l'a proposé, après m'avoir entendu un matin raconter à Cali que j'étais tellement crevée que j'avais failli m'endormir au volant. Il s'est exclamé. « Ah non, c'est trop bête! Il faut que vous restiez au village. Vous pourriez vous installer dans le cottage d'Eward, un peu plus haut, au bord de la rivière. Il est vide. Ce n'est pas le grand luxe, mais ça ne vous coûtera pas un penny. J'irai vous chercher les clés cet après-midi. » Quand il est parti, Cali m'a fait une grimace en s'exclamant. « Ouh, le cottage d'Eward. Méfiez-vous d'Annie la folle. Je vous demande pardon. Cette maison au bord de la rivière que Patrick Townsend utilise comme cabane de pêche, on l'appelle le cottage d'Eward. Anne Ward, ça ne vous dit rien? C'était une des femmes. » Puis baissant la voix jusqu'au murmure. « On raconte que si on regarde bien, on peut encore voir des traces de sang sur les murs. » Elle a dû voir à mon visage que je ne voyais pas du tout de quoi elle parlait, car elle a souri avant d'ajouter. « C'est juste une histoire, une des vieilles légendes de Beckford. » Sauf que les vieilles histoires de Beckford ne m'intéressaient pas vraiment. J'avais assez à faire avec les récentes. Anderson était injoignable et on avait pris la décision de le laisser tranquille jusqu'à son retour. Si l'histoire avec Cathy Whittaker était vraie et qu'il apprenait qu'on était au courant, il risquait de ne pas revenir du tout. En attendant, Sean m'avait demandé d'aller poser des questions à sa femme, qui, en tant que directrice du collège, était la supérieure hiérarchique de Anderson. « Je suis certain qu'elle n'a jamais eu le moindre soupçon à son égard », m'a-t-il dit. « Au contraire, je pense même qu'elle le tient en haute estime, mais il faut que quelqu'un l'interroge, et il est évident que ça ne peut pas être moi. » Il m'a ensuite indiqué qu'elle était au collège et qu'elle m'attendait. Quand je suis entrée dans son bureau, elle n'avait certainement pas l'air de m'attendre, ou alors elle cachait bien son jeu. Elle était à quatre pattes, la joue collée à la moquette grise, en train de regarder sous une bibliothèque. J'ai toussé poliment pour manifester ma présence, et elle s'est relevée d'un bond, visiblement surprise. « Madame Townsend ?» j'ai demandé. « Je suis le sergent Erin Morgan. »« Ah, oui !» elle a dit en rougissant avant de se gratter nerveusement la nuque. « J'ai perdu ma boucle d'oreille. » « On dirait que vous avez perdu les deux ?» j'ai commenté, vu qu'elle n'en portait pas. Elle n'a rien répondu et s'est contentée d'émettre une espèce de grognement en m'indiquant un fauteuil. Puis elle a remis en place les pans de son chemisier, a lissé son pantalon gris et s'est assise. Si j'avais dû imaginer à quoi ressemblait l'épouse de l'inspecteur en chef, j'aurais vu une femme assez différente. Séduisante, chic, probablement athlétique, une coureuse de marathon ou une triathlonienne. Mais Hélène portait des vêtements qui auraient plutôt convenu à une femme de 20 ans son aînée, et elle avait le teint pâle et les bras frêles de ceux qui s'aventurent peu à l'extérieur. « Vous vouliez me parler de Mark Anderson ?» elle a déclaré en jetant un œil distrait à une pile de documents posés sur son bureau. Pas de banalité échangée, pas de préambule. On entrait directement dans le vif du sujet. Peut-être que c'était ça qui plaisait à l'inspecteur en chef chez elle. Effectivement. J'imagine donc que vous avez entendu parler des allégations de Josh Whittaker et Lena Abbott. Elle a acquiescé, les lèvres tellement pincées qu'elle ne formait plus qu'une petite fente toute droite. Mon mari m'a raconté cela hier soir. Je peux vous assurer que c'était bien la première fois que j'entendais parler de cette histoire. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais elle a poursuivi. J'ai recruté Mark Anderson il y a 2 ans. Il avait d'excellentes références, et ses résultats jusqu'ici me donnent entière satisfaction, a-t-elle déclaré en se mettant à parcourir les documents sur son bureau. J'ai ici ses derniers bilans de compétences, si cela vous intéresse. J'ai secoué la tête, et une fois de plus, elle a recommencé à parler avant que j'aie pu lui poser une question. Cathy Whittaker était une élève consciencieuse et travailleuse. J'ai son bulletin sous les yeux. Il est vrai que ses résultats indiquent un certain laisser-aller aux alentours du printemps, mais cela n'a pas duré, et elle avait retrouvé sa place en tête de classe au moment où... à la fin de l'année scolaire. Elle s'est enfoncée un peu dans son fauteuil en se passant la main devant les yeux. « Vous n'aviez donc aucun soupçon ?» j'ai demandé. « Il n'y avait pas de rumeur. » « Ah, les rumeurs, c'est autre chose, sergent Morgan. Mais vous savez, les rumeurs qui circulent dans la plupart des collèges vous feraient dresser les cheveux sur la tête. Je suis sûre qu'en faisant un effort, vous pourriez imaginer ce qui se dit, ce qui s'écrit et ce qui se tweete sur moi et Madame Mitchell, notre professeure d'éducation physique. Elle a marqué une courte pause avant de me demander. Avez-vous déjà rencontré Mark Anderson ? Oui. Alors vous comprenez sans doute. Il est jeune, bel homme. Les filles, car ce sont toujours les filles, inventent toutes sortes de choses à son sujet. Il faut donc savoir faire le tri. C'est ce que je pensais avoir réussi à faire. Je le pense toujours, d'ailleurs. Encore une fois, j'ai voulu parler, et encore une fois, elle ne m'en a pas laissé le temps. Je dois d'ailleurs vous dire, sergent, que ces allégations me paraissent pour le moins fantaisistes. Très fantaisistes, même, quand on connaît leurs sources et quand on voit à quel moment elles sont formulées. J'ai cru comprendre que Josh Whittaker en était l'auteur, mais je serais surprise que Lena Abbott ne soit pas derrière tout cela. Josh lui voue une véritable adoration. Et si Lena avait décidé de détourner l'attention de ses propres méfaits, comme l'achat de pilules proscrites pour une amie, par exemple, je suis certaine qu'elle n'aurait eu aucun mal à convaincre Josh d'aller raconter cette fable. « Madame Townsend, autre chose que je devrais vous dire, » m'a-t-elle de nouveau interrompue. « Il y a déjà eu des histoires entre Lena Abbott et Mark Anderson par le passé. » « Des histoires ?»« Oui. Premièrement, Lena avait tendance à se comporter de façon déplacée. »« Comment ça ?» Elle flirte. Et pas seulement avec Mark, d'ailleurs. Il semblerait qu'on lui a appris que c'est le meilleur moyen d'obtenir satisfaction. Nombreuses sont les élèves qui jouent de leur charme, mais Mark a trouvé que Lena allait trop loin. Elle lui faisait des avances. Elle le touchait. Elle le touchait. Le bras, rien de scandaleux. Mais elle avait tendance à toujours se tenir un peu trop près. Enfin, vous voyez le genre. J'ai dû la convoquer dans mon bureau, d'ailleurs. Elle a semblé frémir en se rappelant la scène. Elle a été réprimandée, mais comme d'habitude, elle n'a pas pris cela au sérieux. Je crois qu'elle a fait une réflexion de l'ordre de « dans ses rêves ». J'ai pouffé et elle m'a fusillé du regard. Il n'y a vraiment pas de quoi rire, sergent Morgan. Ces choses peuvent se révéler très préjudiciables à la carrière d'un enseignant. Oui, bien sûr, je comprends. Je suis désolée. Bien, elle a dit en pinçant de nouveau les lèvres en bonne directrice d'école acariâtre. Sa mère non plus n'a pas pris l'affaire au sérieux, vous savez. Mais ce n'est pas une surprise. Son visage s'est animé et sa gorge a légèrement rougi. Pas du tout, même, elle a poursuivi. Ses minauderies, ses battements de cils, ses mèches de cheveux entortillées, ce besoin d'exhiber en permanence sa libido débordante, d'où pensez-vous que Lena tient cela? Elle a pris une profonde respiration avant de poursuivre d'un ton plus calme. Deuxièmement, il y a eu un incident au printemps. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une question de flirt déplacé, mais d'une agression pure et simple. Mark a dû renvoyer Lena de sa classe parce qu'elle avait un comportement grossier et violent et qu'elle avait utilisé des termes injurieux lors d'une discussion au sujet d'un texte au programme. « Lolita, je crois », elle a ajouté en jetant un œil à ses notes. « Lolita ? Intéressant », j'ai commenté. « Je ne vous le fais pas dire. C'est sûrement là qu'elle a trouvé l'inspiration pour ses calomnies », elle a ajouté. Ce qui n'était pas du tout ce que j'avais en tête. À la fin de la journée, j'ai pris ma voiture pour me rendre au cottage. Au crépuscule, il paraissait encore plus isolé, avec les bouleaux fantomatiques en arrière-plan et le pépiment de la rivière qui prenait des notes menaçantes. Les berges et les flancs de la colline étaient absolument déserts. Personne pour vous entendre crier. Quand j'étais passée par là en faisant mon jogging, j'avais trouvé les lieux idylliques. À présent, j'avais plutôt en tête les cabanes abandonnées comme on en voit dans des centaines de films d'horreur. J'ai déverrouillé la porte et jeté un rapide coup d'œil autour de moi, en m'efforçant de ne pas regarder sur les murs s'il restait du sang. Mais l'endroit était propre, et il flottait dans l'air une odeur citronnée de produits ménagers. La cheminée avait été nettoyée et on avait disposé à côté un joli petit tas de bois. Il n'y avait que deux pièces dans ce cottage qui s'apparentait plus à une cabane. Un salon qui donnait sur une petite cuisine et une chambre où trônait un petit lit double sur lequel on avait posé une pile de draps propres et une couverture. J'ai ouvert la porte et les fenêtres pour chasser l'odeur artificielle du détergent. Puis j'ai décapsulé une des bières que j'avais achetées à l'épicerie du village. Je me suis assise sur le perron et regardé les fougères sur la colline d'en face virer du bronze odoré dans la lumière déclinante. Tandis que les ombres s'allongeaient, j'ai senti la solitude laisser place à l'abandon et j'ai attrapé mon portable. Sans savoir qui j'allais appeler. C'est alors que je me suis rendu compte qu'évidemment, il n'y avait pas de réseau. J'ai donc entrepris de me promener en brandissant le téléphone autour de moi. Rien, et rien. Jusqu'à ce que j'atteigne la berge et que je vois enfin apparaître deux barres salvatrices. Je suis restée plantée là un moment, à observer la rivière noire qui filait sous mes yeux en me léchant les orteils. J'avais sans cesse l'impression d'entendre quelqu'un rire, mais ce n'était que l'eau qui glissait sur les rochers. Il m'a fallu une éternité pour m'endormir, et quand je me suis réveillée en sursaut, ruisselante de transpiration, il faisait complètement noir, une obscurité absolue, à ne pas pouvoir distinguer sa main à quelques centimètres de son visage. Quelque chose m'avait réveillée, j'en étais sûre. Un son ? Oui. Un bruit de tout. J'ai tendu la main vers mon portable, mais je l'ai fait tomber de la petite table de nuit, et le fracas qu'il a fait par terre a résonné dans le silence. J'ai tâtonné pour le retrouver, en proie à une peur soudaine. J'étais persuadée que si j'allumais la lumière, il y aurait quelqu'un dans la pièce. J'ai entendu une chouette ululer quelque part dans les bouleaux, et puis de nouveau, le bruit de quelqu'un qui toussait. Mon cœur battait à toute allure et j'étais terrifiée à l'idée de tirer le rideau au-dessus de mon lit, bêtement persuadée qu'il y aurait un visage derrière la fenêtre en train de me regarder. Mais le visage de qui ? D'Anne Ward ? De son mari ? Ridicule ! J'ai marmonné quelques mots pour me rassurer, puis j'ai allumé la lumière et tiré les rideaux. Il n'y avait rien ni personne, évidemment. Je suis sortie du lit, j'ai enfilé un bas de survêtement et un sweat-shirt avant de me diriger vers la cuisine. J'ai envisagé un instant de me faire un thé, mais je me suis ravisée en découvrant une bouteille de Talisker à moitié vide dans le placard. Je me suis servi un verre que j'ai avalé d'un trait. Puis j'ai mis mes tennis, glissé mon portable dans ma poche, attrapé une lampe torche sur le plan de travail et j'ai ouvert la porte. La lampe torche ne devait plus avoir beaucoup de piles. Le faisceau était faible et n'éclairait pas à plus de 2 mètres. Au-delà, c'était l'obscurité complète. J'ai braqué la lampe vers mes pieds et je suis sortie dans la nuit. L'herbe était chargée de rosée. Après quelques pas, mes tennis et mon bas de survêtement étaient complètement trempés. J'ai fait le tour de la maison d'un pas lent, regardant la lumière blanchâtre se refléter sur l'écorce argentée des bouleaux et faire ressortir leurs maigres silhouettes. L'air était frais, agréable, et la brise légère semblait annoncer la venue prochaine de la pluie. J'ai de nouveau entendu la chouette par-dessus le murmure lointain de la rivière et le coassement régulier d'un crapaud. Quand j'ai eu fini mon tour de la maison, je me suis dirigée vers la berge. Le coassement s'est interrompu brutalement. Et soudain, j'ai de nouveau entendu ce bruit de toux. Il n'était pas proche et semblait venir de la colline, de l'autre côté de la rivière. À vrai dire, cette fois, ça ne ressemblait pas vraiment à une toux, mais plutôt à un bêlement, un mouton. Me sentant passablement grotesque, je suis rentrée au cottage où je me suis servi un autre verre de whisky avant d'attraper dans mon sac le manuscrit de Nell Abbott. Je me suis confortablement installée dans le fauteuil du salon et me suis mise à lire.